6h, 9h, c'est Anthony sur Charles King.
Allez, très belle matinée sur Charles King Radio. On va continuer le 6-9 ensemble. Et ce matin, je reçois Faisal Chefou. Bonjour.
Bonjour.
Vous sortez un livre qui s'appelle « Ils m'ont fait porter le chapeau ». Alors, un titre évidemment qui porte très bien son nom, puisqu'on peut le rappeler, vous avez été accusé à tort d'être le fameux homme au chapeau des attentats du 22 mars, c'est ça. Alors, on peut expliquer comment ça s'est passé, justement, ces arrestations, et d'où viennent ces accusations?
J'ai été arrêté, le 24, donc 2 jours après les attentats. C'est à partir de ce moment-là où ma vie a complètement basculé, et où j'ai vécu, et je le vis toujours, en quelque sorte, un cauchemar. On m'a accusé à tort d'être le troisième terroriste de l'aéroport de Bruxelles qui a attaqué.
On rappelle, vous étiez journaliste avant cela. Vous étiez aussi fort engagé dans les plateformes citoyennes et des soutiens réfugiés, notamment au parc Maximilien.
Oui, donc j'étais engagé par la problématique des réfugiés, notamment la problématique des sans-papiers, du logement, et donc j'étais un peu plus impliqué dans ce qui était associatif. J'étais impliqué dans le sens où en tant qu'humain, je me devais, quand je voyais des réfugiés venir ici, en fait, quand on voyait la catastrophe humanitaire à nos portes, eh bien c'est plus qu'un devoir d'agir et de faire d'apporter au moins un soutien et de faire ce qu'on peut pour aider ces personnes-là. Et donc ça s'est passé 4 mois avant les attentats de Bruxelles.
Vous avez été un peu après exclu de cette organisation petit à petit, en fait, c'est ce qui s'est passé.
Oui, j'ai été clairement exclu. Petit à petit, et jusqu'à ce que ça soit définitif. J'ai été embêté par les autorités, notamment par un bourgmestre, l'ancien bourgmestre de la ville de Bruxelles. J'ai été arrêté à 6 reprises à l'époque pour trouble à l'ordre public, alors que je dénonçais l'instrumentalisation des réfugiés dans le parc Maximilien. Et donc ça m'a valu des arrestations à répétition. Et puis Le temps est passé.
Et puis est arrivé aussi le 22 mars, et là on peut le dire, les attentats à la station de métro de Malbec ainsi qu'à l'aéroport de Zaventem. Une journée normale pour vous, enfin en tout cas vous étiez chez vous, c'est ça?
Oui, c'était une journée tout à fait, quand je dirais tout à fait banale, non, pas clairement. Oui, presque, parce que c'était 2 jours après les attentats, donc on était encore dans l'émotion, dans la consternation. Et donc c'était une journée banale dans le sens où j'étais chez moi, un ami m'a proposé simplement d'aller chercher son frère à l'aéroport, et donc on sort et toute une histoire commence là, donc je me fais arrêter par la police et voilà.
On peut parler justement de cette arrestation, vous étiez en voiture par exemple, une de vos arrestations, parce qu'il y en a plusieurs, vous étiez en voiture.
Oui, c'est la première arrestation. Non, je suis avec des amis et je me fais arrêter d'une manière extrêmement violente, et là je sens que je suis à 2 doigts de mourir, quoi.
Un peu votre vie défilée,
ouais,
quoi.
Clairement, et c'est un choc, un traumatisme encore maintenant. J'ai l'image, j'ai toutes les secondes, ça ne s'efface pas. On subit à trois une arrestation musclée. À partir de là,
votre vie va changer.
Ouais, ma vie a complètement changé et j'ai vécu un film, mais un film en vrai.
Alors, interrogatoire, vous êtes aussi emprisonné, enfin en tout cas vous êtes enfermé. Et comment ça va se passer justement?
Alors, ça va être des traitements dégradants, ça va être clairement, j'utilise le mot, même si le mot est fort, c'est de la torture.
Ouais.
Je suis le premier inculpé. Donc, je suis la première personne qui est annoncée par la presse et notamment par les autorités comme étant le premier inculpé et directement lié au principal suspect qui est l'homme au chapeau, l'individu qui est recherché. Mmh. Et donc le numéro 1, l'ennemi numéro 1, et tout le monde dit ben, on l'a eu. Et donc en fait je subis toute cette pression du fait que ben, c'est la première arrestation et on en tient un pour eux. Et là ben, ça devient complètement kafkaïen pour moi et la machine s'emballe en fait.
Ouais, et les médias du monde entier en parlent et vous êtes un peu l'homme à abattre peut-être aussi. C'est ça ?
Oui, mais en fait, clairement, parce que là, je vois que c'est international. Hein. C'est, ouais. Ça va dans toutes les langues. Et clairement, il faut vraiment... Il y a un programme de déshumanisation qui s'enclenche, où on me diabolise, on me diffame. Et en fait, on construit un personnage et on essaye de me lier. Donc, on construit un profil d'une personne. Et on essaye de lier ça au véritable terroriste. Et en fait, ça a été 4 jours, pour pas dire, enfin presque 5 jours de propagande, j'ai envie de dire, où clairement on a essayé de donner une image de moi qui n'était pas celle-là. En fait, on m'a vendu en tant que terroriste, sans respecter la présomption d'innocence.
Ouais, et justement, vous essayez de vous défendre à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passait?
Mais en me défendant, ça devient de plus en plus kafkaïen, parce ouais. que chaque fois que je défends, la sauce augmente. C'est où sont tes complices, ce genre de choses. Quand je leur dis, attendez, écoutez, réfléchissez 2 secondes, je ne peux pas être le terroriste, je le sais. Donc je sais que c'est pas moi. Donc ouais. ce mec est toujours dehors. Donc c'est un danger potentiel. Et là ils le prennent comme une menace. Clairement, hein. On me dit où sont tes complices, où elle est ta bombe. Et là en fait c'est crescendo et ça ne s'arrête plus. Et en fait chaque fois je vais demander mes droits ou chaque fois que je vais vouloir que les choses soient faites dans les règles, eh bien ça va monter jusqu'à être inculpé.
Mmh. Justement, il y a eu d'autres arrestations un peu après. Comment elles se sont passées? Comment ça s'est passé aussi l'emprisonnement, votre enfermement justement? Parce que là, on parle de violence policière aussi.
Alors oui, pour les violences policières, déjà pour l'enfermement. Ça a été très dur, notamment en prison, parce que j'ai subi un traitement dégradant au commissariat de police pendant 48 heures et également en prison, où je suis resté 2 jours et demi, presque 3 jours, mais pour dire clairement 3 jours. Et là, ça a vraiment été des tortures. J'ai été privé de nourriture. On m'a craché je raconte ça dans le livre. On m'a craché dans ma nourriture. Ça a été vraiment un vrai cauchemar. Et surtout voir son nom passer à la télé en boucle dans tous les journaux.
Vous voyez quand même.
Ouais, on m'avait donné une télévision. Et là, voilà, ça prenait une ampleur pas possible. Jusqu'à se dire, attendez, mais on est en train de devenir complètement fou. Et là je me dis mais c'est un truc de dingue. Et donc c'était de la torture, mais c'était également de la torture physique, mais également de la torture psychologique, mais à un niveau extrême, et donc au niveau international dans toutes les langues. Donc ça me dépassait, et donc après ça j'ai entendu, je l'ai appris via la télévision, que j'étais remis en liberté.
D'accord. Et justement, en parlant de télévision, la presse, vous avez maintenant un avis sur cette presse qui vous a peut-être un peu bâché à cette période là
Ben en fait, il y a eu 2 procès, hein. Enfin 2 procès, il y a eu un genre de procès médiatique clairement contre moi, où la presse a les médias, les grands médias de masse ont clairement clairement annoncé des choses qui n'étaient pas vraies, comme le fait de titrer que j'étais le 3e terroriste sans utiliser la présomption d'innocence. À aucun moment il ne parlait au conditionnel. Mmh. Et donc là c'était grave, parce que la justice n'avait pas communiqué de cette manière-là. Certes j'étais inculpé, mais j'étais quand même présumé innocent. Donc les devoirs étaient toujours en cours d'enquête, et puis la moindre des choses chose, c'était pas de tomber dans le sensationnel, mais c'était d'attendre les communications précises, justement, du parquet et des autorités pour avancer plus. Et ils sont allés dans un, en 4 jours, ben, en fait, ils ont construit un ennemi de l'intérieur. Et ça m'a causé un préjudice et ça me cause toujours un préjudice aujourd'hui.
Merci Faisal. On va retrouver la suite de l'interview dans quelques instants. Vous ne bougez pas, ça va être des informations. À tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure.
6h, 9h, c'est Anthony sur Charles King. 6h, 9h, c'est Anthony sur Charles King.
On va continuer le 6-9 sur Charles King Radio ensemble. Et ce matin, je reçois Faisal Chefou à l'occasion de la sortie de son livre « Ils m'ont fait porter le chapeau ». Rebonjour Faisal.
Bonjour.
Forcément, vous avez été libéré. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas vous, l'auteur de ces attentats. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ce moment?
Alors, je l'ai appris par la télévision et j'ai été j'y arrivais pas à y croire en fait, hein, et j'ai cru que seulement quand je suis rentré chez moi, là j'ai fondu quoi. Enfin,
vous vous êtes dit c'est fini.
Ouais,
enfin,
j'ai cru à ce moment-là que c'était fini en fait. Je me suis dit, c'est là où toute la pression est tombée. Enfin, ouais. C'était un grand moment d'émotion avec ma famille. Et j'ai en fait cru que c'était clairement terminé en fait, hein, et là je voulais passer la page quoi, et donc il y avait le côté médiatique, la pression médiatique qu'il y avait là-dedans, c'était vraiment gros, et je me disais ben voilà, c'est terminé, et en fait ben non, ça venait seulement de commencer.
Mmh. Oui, c'est un enfer qui commençait justement, on vous en parlait aussi dans le livre. On peut expliquer ce qui s'est passé par la suite peut-être?
Le lendemain, je me fais arrêter.
Ouais.
Et la presse titre Faisal Chefou, arrêté, à nouveau arrêté dans le cadre d'une affaire terroriste. Et alors, ce n'est pas le cas. C'est également une arrestation parano. Je suis remis en liberté, et donc voilà, c'est une des premières arrestations que je subis, c'est la deuxième en fait, et là ça va être une succession d'arrestations comme ça.
C'est un peu un délit de faciès peut-être.
Là en fait je ne sais pas si je peux dire que c'est un délit de faciès, c'est clairement de l'acharnement.
Ouais.
Parce que là, je ne comprends pas pourquoi des policiers viennent le lendemain de ma libération, et c'est des policiers qui sont habillés d'une manière commando, et je venais de subir quelques jours avant une intervention vraiment très, très musclée, et donc j'en portais encore les séquelles. En voyant ça, c'était l'effroi, clairement.
Ouais.
Donc, et l'incompréhension jusqu'à aujourd'hui.
Et justement, est-ce qu'il y a eu des excuses après de la police, de l'État? Il n'y a rien eu?
Non, j'ai eu juste quelques personnes, quelques confrères qui m'ont présenté leurs excuses, et le juge d'instruction, c'est important. Le juge d'instruction qui m'a libéré me l'a dit, si c'était au téléphone, et donc au moins lui l'a reconnu. Il m'a remis en liberté. Voilà, donc c'est non. À part ça, je suis toujours en attente en fait, et c'est pas des excuses nécessairement que je veux, c'est simplement une reconnaissance en fait, de dire ok, on a commis une erreur. On a commis une erreur. À partir du moment où on reconnaît qu'on a commis une erreur, on fera plus attention la prochaine fois.
Victime peut-être collatérale aussi des attentats.
Alors, on me l'a dit souvent, la police m'a parlé et elle m'a dit clairement, vous êtes une victime collatérale. Alors, oui, dans un sens, mais c'est parce que je suis une victime de ces attentats. Enfin, je suis aussi une victime de ces attentats parce que j'ai subi les conséquences de l'onde médiatique, les effets qui sont aussi dévastateurs et qui sont, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, qui ont eu des séquelles dans ma vie et qui ont bousculé complètement ma vie, hein, et je suis bloqué voilà depuis en 2016.
D'accord. Ici, trois ans après les attentats, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez encore des réactions? Est-ce que c'est encore facile pour vous de vous balader en rue? Je sais par exemple que pour vous, prendre des transports en commun pendant toute une période, c'était compliqué.
Oui, c'est vrai que c'était assez compliqué, et ça allait de temps en temps. J'ai un rappel. Il y a des moments, des gens qui me Ouais, qui me font des remarques dans la rue, en me posant directement la remarque du genre mais c'est pas vous l'homme au chapeau. Et non, en fait, c'est ça l'amalgame. C'est qu'on a insisté, les médias ont insisté sur le fait que c'était moi pendant 4 jours, 5 jours dans les médias en faisant un non-stop et c'était mondial. Et le jour où ils ont arrêté le véritable terroriste, on a eu moins de communication, en tout cas, où ça a été moins clair par rapport à ça. Et donc, ça a créé dans l'esprit de monsieur tout le monde une confusion. Et certaines personnes me disent, mais comment ça se fait que vous restez inculpé, ce genre de choses, etc. Que la presse répète. Et donc, oui, j'ai des remarques désobligeantes. Je dirais pas désobligeantes. J'ai des remarques d'incompréhension et de beaucoup d'interrogations. Et j'essaie de communiquer pour essayer de régler le problème. Mais c'est pas toujours évident parce que c'est répétitif, etc. Et donc, mais j'ai aussi beaucoup de messages de soutien. J'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent et qui me soutiennent à parler et à raconter ce qui m'arrive en fait.
Mmh. Et même dès le début d'ailleurs, vous avez même reçu des messages de soutien des gens qui n'y croyaient peut-être pas forcément.
Ouais. J'avais vraiment des personnes qui étaient là, qui étaient, quand je dis des personnes, c'est des comités de défense de droits de l'homme qui étaient à mon écoute. J'avais besoin de raconter ça, hein, de ce qui m'arrivait, quoi, hein. J'avais besoin de raconter ça pour pas devenir complètement fou, et j'avais besoin d'un soutien, et donc ces ONG et ces associations m'ont aidé et m'ont conseillé, des amis aussi m'ont clairement conseillé de raconter en fait, et c'était surtout dans le fait de raconter parce que j'ai subi une série d'arrestations plus tard qui me mettaient en danger, clairement. Qui pouvait me protéger de la police ? J'avais déjà vécu, j'étais victime de ça. Donc j'avais déjà été mise en danger. Et donc en fait, c'était pour moi une priorité de raconter tout ce qui m'arrivait, de peur qu'un jour... Donc un jour, il y a une arrestation brutale où il me tue. Donc je me dis, j'avais un réflexe de noter tout ce qui se passait, de vraiment suspect dans des post-it. Et c'est ça qui a fait ce livre, en fait. Hein. Mm-hmm. C'est une succession de post-it rassemblés et de 3 années de complètement rocambolesque.
Ce livre, c'est aussi dénoncer peut-être ce qui s'est passé ?
Complètement, parce que... quand je suis en prison, il y a une personne qui me dit qu'il a aussi été, donc il me parle par la fenêtre et qui me dit qu'il a aussi été arrêté injustement, à tort, dans le cadre d'une affaire terroriste. Mm-hmm. Et donc il crie son innocence et il me dit c'est une chasse aux sorcières. Et si tu sors, ne nous oublie pas, parce que si tu es innocent, sache qu'il y en a d'autres aussi en prison. Donc depuis, je suis convaincu que... Certes, il y a des personnes qui ont commis des crimes, qui sont en prison, et qui méritent de l'être, certes, et encore, c'est discutable, parce que pour moi, la prison, je pense pas que c'est la meilleure des solutions, hein, c'est pas pour moi la solution, c'est pas ce qui permet une réinsertion, etc. Maintenant, il y a des personnes en prison qui m'ont dit, on est innocent et on est en prison. Parce qu'on est musulman. Et donc j'ai écouté ces témoignages. Et en fait, si tu sors, raconte que c'est une chasse aux sorcières ce qui nous arrive. Et donc en fait, c'est clairement ce que... si je raconte, c'est pour pas faire l'autruche en fait. Hein. Ouais. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont... J'en suis convaincu, il y a des innocents en prison aussi. Il n'y a pas que des criminels. J'en suis la preuve. On peut être accusé à tort. Et il y a des personnes qui sont accusées de terrorisme, ce qui est la pire des accusations, et passent des mois en prison alors qu'ils sont innocents, et quand la machine s'emballe médiatique, politico-médiatico-judiciaire, ça devient absolument dingue, et c'est une machine où je l'ai vécu, qui devient vraiment, qui broie un homme en fait. Et donc je parle pour toutes ces victimes aussi, collatérales des dérives de la des dérives des lois antiterroristes en fait.
D'accord. Ça se passe donc dans votre livre, c'est une véritable un véritable bible de tout ce qui s'est passé durant 3 ans presque. Enfin, en tout cas, cette période du 22 mars et après. Si on veut le découvrir, ça sortira bientôt. C'est ça ? Ce sera ce 29 mars ?
Oui, c'est ça. À partir du 29 mars, il y a une présentation du livre « Ils m'ont fait porter le chapeau ». C'est très bientôt, donc je suis très content.
Et il y a une présentation du livre, on peut peut-être en dire quelques mots. Hein. Ça se passe
à Bruxelles, donc à l'espace citoyen. Il y a une page Facebook et notamment sur le site antidote-publishers.be. Vous avez toutes les infos.
Ils m'ont fait porter le chapeau, c'est le livre de Faisal chez vous. Vous n'étiez pas tout seul d'ailleurs pour faire ce livre. C'est important de le noter peut-être.
Oui, je me suis fait aider par... un confrère journaliste, Benjamin Van Lerberg, qui m'a vraiment aidé à finaliser et à mettre tout ça dans un bouquin et de manière à faire que ça soit clair. Et franchement, je le remercie. Je remercie également les éditions Antidote de m'avoir fait confiance.
Ah bien, parfait. Aux éditions Antidote, donc, qui m'ont fait porter le chapeau. Faisal Chefou, merci d'avoir accepté ce long entretien, en tout cas avec Sherlock King Radio. Et on vous souhaite évidemment beaucoup de courage.
Merci à vous.
6h, 9h, c'est Anthony sur Sherlock King. Sherlock King Radio. Ziggy Radio from Belgium. C'est ça. C'est ça. Sherlock King Radio. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. Pop, rock, dance, sick radio. Sherlock King. Sherlock King Radio.